Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Després et je suis très content aujourd'hui d'être chez Filigrane, que je remercie beaucoup de nous accueillir. Alors en fait, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, nous allons débattre du livre de Nicolas Véron qui porte sur la crise financière. Et en fait, cet événement a été organisé, est accueilli par Filigrane et a été organisé par le Forum 311. Le Forum 311, c'est en fait un groupe de jeunes francophones qui sont à Bruxelles et qui travaillent sur les affaires européennes. Et on organise en fait des débats tous les mois sur des sujets européens, des sujets qui ont trait à la France. Et on essaie de faire ça d'une façon un peu informelle. Donc c'est pour ça qu'on est très content de le faire chez Filigrane. C'est la deuxième ou peut-être la troisième fois, je ne sais plus. Donc voilà, donc j'espère que ça va être une discussion intéressante. N'hésitez pas à vous rapprocher. On est en petit comité, donc... on va essayer de pouvoir dialoguer entre nous et de pouvoir discuter avec Nicolas de son livre qui est passionnant. Donc pour introduire Nicolas, comme certains d'entre vous le sait, Nicolas travaille chez Bruegel, qui est un think tank à Bruxelles qui travaille sur les sujets économiques et financiers. Auparavant, Nicolas a été en fait travaillé pour le ministère du travail en France. Il a été aussi impliqué dans des entreprises internet comme Lycos et Multimania. Et il est arrivé à Bruxelles, je crois en 2002, c'est ça, lors de la création de Bruegel. Et maintenant, il est en plein dedans et il est un des piliers de ce think tank. Et Nicolas, en parallèle, a écrit de nombreux livres sur les sujets financiers et économiques. Qui pourra peut-être nous présenter un peu plus tard. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est son livre qu'il a écrit, qui a été publié récemment en France, qui s'appelle « Le Grand Dérèglement, chronique du capitalisme financier », qui a été publié aux éditions Ligne de Repère. Alors, ce livre n'est pas encore sorti en Belgique, mais il y a quelques exemplaires ici que vous pourrez feuilleter, et j'espère qu'il va sortir très bientôt en Belgique. Ce livre a la particularité en fait d'être le recueil de chroniques que Nicolas a publié dans le journal La Tribune, qui est un journal économique français que beaucoup d'entre vous connaissent. Chroniques qui ont été publiées depuis 2005 en fait. Et l'objet du livre, si j'ai bien compris, c'était en fait un petit peu de retracer l'ensemble de ces chroniques pour donner une perspective assez originale et rétrospective, aux origines de la crise et également aux solutions qui pourront être données à cette crise dans les années qui viennent. Je vais laisser peut-être Nicolas présenter un petit peu son livre et ensuite on pourra discuter des différents chapitres et on pourra engager la discussion avec vous. Donc voilà, Nicolas, c'est à toi.
Merci Bertrand, merci à la librairie Filigrane d'avoir bien voulu accueillir cette discussion. On est en assez petit comité, donc moi ce que je vous propose c'est d'avoir une discussion vraiment très libre et interactive, parce que le livre finalement est un peu un prétexte pour ça. Pourquoi faire ce livre? Parce que j'ai éprouvé moi le sentiment que mettre en perspective les différentes étapes des quatre dernières années, à la fois ce qui rétrospectivement est une montée des risques et une montée vers la crise en 2005-2007 et puis depuis 2007, les différentes phases de cette crise financière qui est de plus en plus alarmante et quelque chose que j'ai trouvé utile, qui permet de se poser des tas de questions sur qu'est-ce qu'on avait vu, à quel moment, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu et tout. Ça permet aussi de voir les choses d'une manière assez nuancée puisque finalement, avec le recul du temps, on a tendance à introduire une dichotomie très forte entre les années où tout semblait aller bien, où on était dans une sorte de bulle, et les années de crise, ou les mois de crise maintenant, où on a l'impression que finalement on avait tout faux. Avant que la crise éclate, on ne s'est vraiment pas rendu compte de ce qui se passait. En fait, je crois que le jugement doit être beaucoup plus nuancé. Il y a un certain nombre de forces qui étaient là avant, qui sont toujours là maintenant, qui étaient déterminantes avant 2007, qui continuent d'être déterminantes maintenant, et finalement de voir comment elles interagissent d'une manière différente aujourd'hui, tout en étant toujours là, est quelque chose que je crois important. Quelles sont ces forces? Elles sont très simples, ce sont les forces de la mondialisation, de l'intégration économique à travers les frontières, qui n'est pas seulement un phénomène économique, qui est aussi un phénomène technologique avec l'Internet, qui est un phénomène culturel avec la diffusion de la langue anglaise, qui est un phénomène politique aussi dans une certaine mesure, et on le voit particulièrement dans l'Union européenne avec toutes les ambiguïtés que ça peut avoir d'un point de vue politique, et dans l'autre sens, la permanence des cadres nationaux pour tout ce qui concerne l'action collective, finalement. Et ça aussi, c'est pas seulement dans le monde financier, c'est quelque chose qu'on voit de manière beaucoup plus large à travers la crise. Et donc, si on essaye de lire l'histoire récente à travers le jeu de ces deux forces, la poussée vers le dépassement des frontières, vers l'intégration internationale sur l'économie, mais aussi sur d'autres dimensions de la vie collective, et en même temps, la force que conserve le cadre national comme cadre de référence pour une action collective, je crois que on voyait ces éléments qui interagissaient avant la crise, on les voit interagir aujourd'hui d'une manière complètement différente, mais sur lequel on peut aussi établir des continuités. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant à faire. C'est pour ça que le livre est divisé en différentes sections qui prennent des angles différents sur ces aspects-là. Il y a une première section sur la crise, une deuxième sur les aspects de régulation et de gouvernance, une troisième sur la mondialisation des entreprises ou l'internationalisation des entreprises et la position de la France de ce point de vue-là, puisqu'il y a un peu des spécificités françaises, notamment dans l'attachement très fort qu'on a en France sur tout ce qui est la problématique du nationalisme économique, du patriotisme économique et ces questions-là. Et voilà, donc moi ce que je propose peut-être, enfin je ne sais pas comment tu avais prévu d'organiser la soirée, mais que peut-être, je ne sais pas, mais moi j'aimerais bien vous donner la parole en ayant déjà le sentiment d'avoir trop parlé là.
Bah, moi ce que je propose c'est qu'on aille chapitre par chapitre parce que c'est assez bien découpé, ça commence avec les origines, ensuite ça trace un petit peu les solutions et ensuite ça s'interroge un petit peu sur la place de la France et de l'Europe dans cette crise. Donc ce qu'on peut faire c'est d'y aller étape par étape et avec vos questions et vos réflexions sur ce que va dire Nicolas. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est justement cet aspect, cet aspect rétrospectif et qui fait que, par exemple, il y a des symptômes qui ont été identifiés assez tôt, bien avant la crise. J'en cite quelques-uns, le manque de transparence et de compréhension de la part des acteurs financiers, la question sur l'adaptation des réponses des pouvoirs publics, le rôle et la régulation de la part de l'État et enfin la place de l'Europe et de la France. Et ce que je voudrais, ma première question en fait qui porte vraiment sur les origines de la crise, c'est est-ce que tu crois que la plupart des acteurs et notamment toi ont saisi que ça allait être aussi important, qu'il allait avoir cette espèce de marée qui allait déferler et qui allait nous mettre dans cette situation où les économies se sont quand même dans une situation assez mauvaise. Et ce qui est à travers cette question, il y a la question du pourquoi il y a eu cette sorte d'optimisme général qui a fait que peut-être la plupart des commentateurs n'ont pas apprécié la gravité de la crise. Alors que les premiers symptômes étaient déjà apparents.
Je peux vous demander quels étaient les premiers symptômes.
Et quels étaient, voilà.
Les tout premiers symptômes. Alors, qui aurait dû mettre les économistes à plus à l'heure.
Sur l'aveuglement collectif, si on veut. Moi, j'avais pas vu venir ce qui est arrivé. Je crois que personne l'avait vu venir exactement sous la forme où c'est arrivé. Il y a évidemment une différenciation dans le monde des gens qui analysent l'économie. Il y a des gens qui se positionnent sur un créneau de toujours prédire que ça va aller mal. Donc, à un moment, ils ont raison. C'est comme les horloges qui sont arrêtées. Elles marquent l'heure juste deux fois par jour. Mais je crois qu'on a été face à un développement qui était très difficile à prévoir, même avec de la lucidité, puisque je crois qu'on a des phénomènes dans cette crise, c'est un peu comme dans les épidémies, on a là la grippe mexicaine, c'est une bonne métaphore. On sait comment les crises se propagent, on sait comment ça marche, on sait de temps en temps comment elles se résolvent, mais comme les tremblements de terre, comme les épidémies, ce sont des événements qui sont assez difficiles à prévoir. Cela dit, il y a des signes avant-coureurs qu'avec le recul aujourd'hui, on identifie très bien, mais dans une période relativement courte en fait. C'est-à-dire que le moment où le système s'est vraiment déréglé si on regarde en termes notamment de surendettement général dans l'économie, hein, d'augmentation très forte de ce que les économistes appellent l'effet de levier, c'est-à-dire en gros la dette par rapport à ce qui se passe normalement par ailleurs dans l'économie, le moment où ça s'est vraiment emballé, ça a été une montée progressive, mais ça s'est vraiment emballé dans les 2-3 années qui ont précédé le début de la crise. Alors je précise que ce que j'appelle le début de la crise, c'est l'août 2007, c'est l'été 2007, c'est-à-dire le moment où les marchés financiers ont commencé à se dérégler fortement, même si le moment où la crise a commencé à être très médiatique et très ressentie comme immédiate par les opinions publiques, c'est plus la chute de Lehman Brothers, septembre 2008, octobre 2008, au moment où les marchés se sont carrément effondrés. Mais dès l'été 2007, donc un peu plus d'un an avant, on était dans une situation qui était déjà une situation de crise, absolument anormale du point de vue du fonctionnement des marchés, avec des réponses en termes de politique publique exceptionnelles. Donc un peu comme, d'une certaine manière, si on prend la métaphore qui a ses limites, mais qui est quand même intéressante, de la pandémie, je dirais qu'à partir d'août 2007, on était dans la situation où on est peut-être aujourd'hui par rapport à la grippe, sachant que peut-être que la grande épidémie de grippe qui va tuer beaucoup de monde en Europe, elle aura lieu dans un an, dans deux ans, si elle a lieu. Je ne suis pas en train de dire qu'elle aura lieu. Mais on voit bien que ce sont des phénomènes qui viennent par vagues successives. Et de ce point de vue-là, il y a des analogies, même si elles ne vont peut-être pas extrêmement loin. Alors, quels sont les éléments que des observateurs comme moi avaient vus? Quels sont les éléments qu'ils n'avaient pas vus? Alors, ça dépend des observateurs. Hein, il y a toutes les palettes. Je dirais que Ce qui apparaît dans les chroniques, avec mon éditeur, on a fait un choix de sincérité de ce point de vue-là, qui est de publier toutes les chroniques que j'ai écrites depuis 2005. C'est-à-dire qu'on n'a pas filtré celles qui s'étaient révélées mal vues rétrospectivement. C'est texte intégral, donc avec une capacité qui est donnée au lecteur de juger. Je pense que ce qui était identifiable et ce qui apparaît dans les chroniques, c'est le fait que le système de régulation avait perdu en autorité, c'est-à-dire notamment aux États-Unis, et du coup, parce que les marchés sont très interconnectés également en Europe, on avait franchement un peu débranché un certain nombre de garde-fous. Donc, ce sont les autorités en charge de la régulation des marchés financiers, en charge de la surveillance des banques, qui sont devenus très laxistes, ce qui est en partie un phénomène de nature politique. C'est en partie un phénomène qui est lié à l'administration Bush, à une certaine idéologie de l'administration Bush, qui est une idéologie anti-État et anti-régulation. Donc je crois que ce phénomène-là, il est identifié dans cette vision. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est encore une fois la montée en charge de l'endettement et même d'une certaine manière d'un surendettement au niveau de l'ensemble de l'économie. Mais ce qui est aussi une différence d'approche, c'est-à-dire que ça, c'est plus une approche macroéconomique. Moi, je ne suis pas macroéconomiste, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas vu, faute d'avoir suffisamment regardé. Et donc, je crois que c'était un angle assez partiel sur ce qui s'est passé. Maintenant, si on met de côté mes chroniques et qu'on essaye d'avoir une vision rétrospective de pourquoi on a si peu vu les déséquilibres monter, je crois qu'il y a eu aussi une forme de myopie collective ou d'aveuglement collectif, si on veut, qui est lié au fait qu'il n'y a pas eu suffisamment d'autonomie du débat public et des autorités publiques, et c'est un sujet que Florence Autré, ici présente, connaît bien, par rapport aux acteurs privés. C'est-à-dire qu'on a, je crois, collectivement, considéré qu'il pouvait y avoir une certaine convergence de vision entre les autorités publiques, les acteurs privés, les politiques, sur ce que pouvait être le fonctionnement du marché financier, alors que fondamentalement un marché financier, c'est un lieu de confrontation de points de vue extrêmement différents et même opposés, pas seulement en termes de vendeurs et d'acheteurs, puisque ça c'est le mécanisme de formation des prix, mais également en termes de la manière dont on façonne les structures mêmes du marché. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a tous, je considère que même si je me vois comme ayant été toujours dans une posture un peu critique, probablement pas suffisamment critique quant au degré auquel le débat a été finalement capturé par des discours qui étaient en grande partie des discours liés à des intérêts particuliers, à des intérêts privés. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un travail à faire aujourd'hui d'essayer de voir quelle peut être la relation entre l'autorité publique, le débat public et les acteurs privés, sachant qu'il ne faut pas non plus croire qu'on peut parler de marché financier en mettant complètement de côté les points de vue de capitalistes et les points de vue des intervenants privés. Donc je crois que là, il y a une question de comment on structure un débat collectif qui est une question difficile et sur laquelle on n'a pas retrouvé un point d'équilibre, sachant que clairement, on avait un thème un peu déséquilibré dans les années qui ont précédé la campagne.
Ok, merci Nicolas. Alors, je veux revenir un petit peu...
T'as
couvert tout, en fait.
Cette structure en chapitre est inadaptée.
Je vais pas suivre, j'avais même un deuxième petit point que j'allais... Non, en fait, c'était parce qu'on a couvert pas mal toutes les questions politiques, mais... Il y a eu des articles récemment sur le fait que ça allait mieux, qu'on était dans une phase peut-être de reprise. Alors, je suis pas économiste du tout. J'ai cru comprendre que les prêts interbancaires, qui étaient une des causes assez importantes de la crise et du fait qu'il n'y avait pas de crédit pour les gens, étaient un grand parti du problème. Et alors, est-ce que ça va mieux, quoi? Est-ce que tu es plutôt optimiste sur les mois qui viennent?
Non, ça va pas mieux. Hein. La réponse courte, c'est non. C'est vrai que la contrainte de liquidité sur les banques, pour parler un peu technique, est moins forte, mais c'est entièrement lié au fait que le système financier est complètement mis sous perfusion publique. Donc, c'est les banques centrales qui assurent la liquidité du système. C'est comme une maison qui brûle sur lequel il y a des gens qui il y a des pompiers qui l'aspergent d'eau, mais pour l'instant, ils n'ont pas éteint l'incendie. Donc je ne sais pas si c'est la bonne métaphore, en fait, mais c'est parce que je parlais de liquidité, ça m'a fait penser à de l'eau. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a absolument pas résolu le fond du problème. Et le fond du problème, si on regarde d'un point de vue financier, c'est que probablement on a des banques qui sont en situation de faillite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens financiers de répondre à leurs engagements futurs. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon une situation d'insolvabilité par opposition à une situation d'illiquidité où, en fait, il y a tout ce qu'il faut dans la banque pour payer, mais simplement on n'a pas le cash disponible aujourd'hui pour payer ce qu'on doit payer aujourd'hui. Mais donc voilà, on a un système, je ne sais pas si vous avez déjà vu les derniers chiffres du FMI, ils sont absolument colossaux. Il y a beaucoup de banques, probablement en Europe, qui devraient être mises en faillite si on avait un système transparent sur leurs engagements financiers. Et tant qu'on n'aura pas résolu ça, et c'est très difficile à résoudre à la fois techniquement et politiquement, je crois qu'on ne sera pas tiré d'affaire et on continuera d'avoir une économie qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire dans laquelle le crédit, qui est un peu le fluide vital de l'économie, n'est pas bien distribué. Parce que l'État ne peut pas se substituer aux banques. Hein. L'État n'est pas capable, comme ça, depuis le ministère des Finances ou depuis la Banque centrale, d'allouer le crédit dans l'économie. C'est pour ça qu'on a des banques. Et l'expérience assez universelle, c'est qu'il vaut mieux que les banques soient privées, même si elles sont sous garantie publique et que ça pose des problèmes d'incitation, parce que lorsque les banques sont sur la longue durée détenues par le gouvernement, moi je suis français, hein, on a bien connu ça en France, ça donne des erreurs de gestion absolument colossales et des inefficacités très 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 douloureuses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crois que ce qui va se passer, c'est que les Européens, qui n'ont pas vraiment les institutions pour traiter des faillites bancaires, notamment des faillites bancaires transfrontalières, puisque bon, il y a tout un sujet qui est que le marché bancaire européen est devenu très intégré au sein de l'Union européenne, donc on a beaucoup d'intégration transfrontalière, mais on n'a pas les institutions pour gérer ce marché intégré. Hein, et donc, comme on a ce problème, qui est avant tout un problème politique et institutionnel, on va essayer de reculer les mauvaises nouvelles autant qu'on le peut. C'est-à-dire, je crois qu'on va avoir pas mal de temps, pas mal de probablement des mois, voire des années. C'est pas impossible. Après tout, ça fait bientôt 2 ans que la crise est là, hein, donc c'est pas absurde de raisonner en années, pendant lesquelles on va essayer de cacher les mauvaises nouvelles, d'espérer que tout va se rétablir spontanément et de dire « tout va bien, Madame la Marquise », comme dans la chanson, sans résoudre le problème. Et parce qu'on n'aura pas résolu le problème et que le marché n'est pas idiot, le marché continuera d'être déprimé et le crédit continuera d'être mal distribué dans l'économie. Et donc ça va coûter énormément en termes de croissance économique, donc une faible croissance, voire une continuation de la récession, un chômage qui va monter beaucoup, et beaucoup de misère économique et sociale en conséquence de ça. C'est en gros la situation à la japonaise.
Et est-ce que tu crois qu'il y a des pays comme en Asie qui vont s'en tirer mieux qu'en Europe. Parce que
je pense que les États-Unis vont se sentir mieux qu'en Europe, puisque les États-Unis, même si c'est d'une manière assez chaotique, sont en train, à mon avis, de commencer à régler leurs problèmes financiers. Parce qu'ils ont des institutions et une capacité de décision politique qui leur permet de le faire. Et je crois que de ce point de vue-là, l'Union européenne va être extraordinairement handicapée par l'inadéquation de ces institutions qui ne permettent pas de cristalliser une décision qui est une décision très dure à prendre. Hein. On voit bien tous les problèmes que Obama a en ce moment avec le système bancaire. En gros, Obama, il arrive à régler toutes ses crises en ce moment, sauf la crise bancaire. Hein. C'est la plus dure dans tout le portefeuille de crise qu'il a. Alors, il ne les règle pas, mais je veux dire, il arrive à faire face à tous ces défis politiques. Pour l'instant, il n'a pas encore vraiment convaincu, même si on peut voir son action sous un jour plus ou moins positif ou plus ou moins négatif, mais enfin, il n'a pas vraiment convaincu sur le fait qu'il faisait face à la crise bancaire, alors qu'il fait face à l'Afghanistan, à l'Irak, à la pandémie, à la division du pays entre républicains idéologiques et démocrates idéologiques, à des tas d'autres problèmes. Mais sur la crise bancaire, on voit bien que c'est le plus difficile.
Mais si j'ai bien compris, aux États-Unis, Obama, son approche est vraiment de lancer des plans de relance assez conséquents et d'injecter de l'argent frais qui permette aux entreprises d'avoir un bilan pas trop négatif. Mais est-ce qu'il s'attaque vraiment à tous ces problèmes de dérégulation dont tu parlais tout à l'heure? Ou est-ce que c'est juste, en fait, de mettre de l'argent un petit peu pour relancer le marché sans s'attaquer au cœur du problème?
Alors, qu'est-ce que c'est le cœur du problème dans une crise bancaire? Je crois que la manière dont on a tendance à poser parfois le problème en termes de est-ce qu'on est laxiste ou est-ce qu'on régule suffisamment n'est pas la meilleure façon de poser le problème, puisqu'en fait, tout marché financier est régulé d'une certaine manière. Mais en revanche, il y a aujourd'hui un système bancaire qui est malade, c'est-à-dire dans lequel il y a un certain nombre de banques qui sont insolvables. Encore une fois, je crois que c'est ça le cœur du sujet. C'est pas un problème d'actifs toxiques. Hein. On a beaucoup entendu parler des actifs toxiques. À mon avis, tout ça est un écran de fumée. Non pas que ce problème soit pas réel, mais je crois que c'est pas la bonne manière de poser la question. Le problème n'est pas qu'il y a des actifs toxiques dans le système. Ça, à la limite, on saurait le gérer. Le problème, c'est qu'il y a des banques qui sont insolvables, qui refusent de l'avouer, qui sont donc en survie artificielle, qu'on ne peut pas traiter avec une procédure normale de faillite, puisque ça, on a essayé avec Lehman, et puis on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée, c'est-à-dire qu'une procédure normale de faillite n'est pas adaptée au secteur financier à cause des caractéristiques du secteur financier et de la propagation très rapide des problèmes systémiques, des mouvements de panique. Et donc, il faut trouver d'autres moyens que les procédures normales de faillite. Je crois que c'est ce que l'administration américaine va faire à travers ce qui s'est appelé les stress tests et un certain nombre d'inspections qui ont été conduites dans les grandes banques et sur lesquelles on va être assez rapidement fixé, hein, puisque normalement il y a une communication sur une partie des résultats de ces tests qui sera faite la semaine prochaine. Mon sentiment, mais peut-être que je suis trop charitable avec l'administration Obama, c'est qu'ils vont utiliser, même si c'est pas tout à fait ce qu'ils ont dit jusqu'à présent, ils avancent masqués d'une certaine manière, ils vont utiliser cet instrument. Je crois que ce truc ne marche plus du tout. Ils vont utiliser cet instrument pour.
Je pense que tout le monde t'entend.
Ouais. Oui, il vaut mieux que je parle fort. Ils vont utiliser cet instrument pour faire le tri, pour déterminer quelles sont les banques qui ne peuvent pas survivre, les nationaliser et les restructurer. Ça va être un processus extrêmement complexe parce qu'ils n'ont pas de consensus politique aux États-Unis pour ça. Hein. Il y a là. En gros, la moitié du pays qui est républicaine et le parti républicain est très opposé à cette approche pour des raisons en partie idéologiques. Je crois que c'est malgré tout ce qu'ils vont essayer de faire. C'est ce qu'on devrait faire en Europe, mais on n'a pas commencé du tout. Hein. En Europe, on n'a absolument pas le moindre début de commencement d'un débat sur la gestion de la crise au sens de faire le tri entre les banques qui vont bien, celles qui vont mal, et fermer les banques qui vont mal. Or, la leçon de toutes les crises bancaires passées, toutes les grandes crises bancaires passées, que ce soit la Suède, le Japon, la Finlande, les savings and loans aux États-Unis, toute une série d'épisodes de crises bancaires, la Corée du Sud, tout ce qu'on veut, c'est qu'il faut à un moment faire le tri. Tant qu'on n'a pas fait le tri, tant qu'on n'a pas fermé les banques qui vont le plus mal, viré les équipes dirigeantes correspondantes, en gros mis un peu de sang de banquier sur les murs, eh bien, la confiance ne peut pas revenir parce que tout simplement les banques qui, elles, vont bien, sont traités par le marché dans un collectif bancaire qui est considéré comme collectivement allant mal. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Donc ce qu'il faut, c'est permettre au marché, donner au marché suffisamment d'informations pour qu'il puisse lui-même comprendre quelles sont les banques saines et celles qui ne le sont pas. Alors évidemment, en fonction de la gravité des crises, il peut y avoir beaucoup de banques malsaines et peu de banques saines, ou au contraire, beaucoup de banques saines et peu de banques malsaines.
Et par exemple, en France ou en Belgique ou en Europe en général, il y a la proportion de banques saines, banques malsaines.
Nul n'en sait rien parce qu'il n'y a aucune transparence. Aujourd'hui, il y a une opacité totale sur cette question. Mais pourquoi il y a une opacité? En particulier à cause du fait qu'on a des marchés qui sont complètement interdépendants en Europe. Et donc, on ne peut pas demander aux autorités publiques françaises, belges, allemandes, italiennes, etc., de faire cette évaluation de solvabilité, cette évaluation des bilans indépendante, indépendante des données comptables, parce que les données comptables en temps de crise, ça ne marche pas. On pourra y revenir si on veut, mais je veux dire, ce n'est pas les données publiées par les entreprises qui permettent de vraiment se faire une opinion. Et pourquoi est-ce que les autorités nationales ne peuvent pas faire ce tri? Parce qu'il y a un problème de compétition entre les différents pays. Et typiquement, la plupart des pays européens, c'est certainement le cas de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc., ont une approche de type champion nationaux qui est de dire « moi, je ne vais pas pénaliser mes banques en étant dur avec elles si les voisins, n'attendent qu'une chose, c'est que je pénalise mes banques pour qu'ils puissent les racheter ». Et donc, on a un problème d'action collective qui est classique, hein, qui est un problème européen absolument emblématique. Hein. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas au niveau européen, à part dans une certaine mesure la DG Concurrence, mais qui a un mandat différent, des institutions qui permettraient justement de résoudre ce problème d'action collective et de faire le tri d'une manière qui soit équitable et bien distribuée. La Banque Centrale Européenne ne veut pas le faire, et je crois qu'elle a raison. La DG Concurrence a une mission qui est différente. Et donc, on n'a pas d'institution. Et je crois qu'on ne pourra pas faire ce tri, et donc on ne pourra pas sortir de la crise bancaire en Europe tant qu'on n'aura pas créé des institutions peut-être provisoires, mais pour faire cet examen des bilans et faire cette restructuration. Donc, c'est un obstacle. C'est pour ça que je suis très pessimiste sur le court terme. Je pense que c'est un obstacle qui n'est pas simplement un obstacle politique, c'est un obstacle institutionnel, donc plus lourd, plus difficile à surmonter, et que tant qu'on ne l'aura pas surmonté, on ne pourra pas résoudre le problème.